deux contes. Hans Christian Andersen. La bergère et le ramoneur. Avez-vous jamais vu une de ces armoires antiques, toutes noires de vieillesse, à enroulement et à feuillage? C'était précisément une de ces armoires qui se trouvait dans la chambre. Elle venait de la trisaïeule et de haut en bas, elle était ornée de roses et de tulipes sculptées. Mais ce qu'il y avait de plus bizarre, c'était les enroulements, d'où sortaient de petites têtes de cerf avec leurs grandes cornes. Au milieu de l'armoire, on voyait sculpter un homme d'une singulière apparence. Il ricanait toujours, car on ne pouvait pas dire qu'il riait. Il avait des jambes de bouc, de petites cornes à la tête et une longue barbe. Les enfants l'appelaient le grand général commandant en chef Jambe de Bouc. Nom qui peut paraître long et difficile, mais titre dont peu de personnes ont été honorées jusqu'à présent. Enfin, il était là, les yeux toujours fixés sur la console placée sous la grande glace où se tenait debout une gracieuse petite bergère de porcelaine. Elle portait des souliers dorés, une robe parée d'une rose toute fraîche, un chapeau d'or et une houlette. Elle était charmante. Tout à côté d'elle se trouvait un petit ramoneur, noir comme du charbon, mais pourtant de porcelaine aussi. Il était aussi gentil, aussi propre que vous et moi, car il n'était en réalité que le portrait d'un ramoneur. Le fabricant de porcelaine aurait tout aussi bien pu faire de lui un prince, ce qui lui aurait été vraiment bien égal. Il tenait gracieusement son échelle sous son bras et sa figure était rouge et blanche comme celle d'une petite fille. Ce qui ne laissait pas d'être un défaut qu'on aurait pu éviter en y mettant un peu de noir. Il touchait presque la bergère. On les avait placés où ils étaient, et là où on les avait posés, ils s'étaient fiancés. Aussi, l'un convenait très bien à l'autre. C'étaient des jeunes gens faits de la même porcelaine, et tous deux également faibles et fragiles. Non loin d'eux se trouvait une autre figure trois fois plus grande. C'était un vieux chinois qui savait hocher la tête. Lui aussi était en porcelaine. Il prétendait être le grand-père de la petite bergère, mais il n'avait jamais pu le prouver. Il soutenait qu'il avait tout pouvoir sur elle. Et c'est pourquoi il avait répondu par un aimable hochement de tête au grand général commandant en chef Jambe de Bouc qui avait demandé la main de la petite bergère. « Quel mari tu auras là ?» dit le vieux chinois. « Quel mari ! Je crois quasi qu'il est d'acajou. Il fera de toi, madame, la grande générale commandante en chef Jambe de Bouc. Il a tout son armoire remplie d'argenterie, sans compter ce qu'il a caché dans les tiroirs secrets. « Je n'entrerai jamais dans cette sombre armoire, » dit la petite bergère. « J'ai entendu dire qu'il y a dedans 11 femmes de porcelaine. »« Eh bien, tu seras la 12e ?» dit le chinois. Cette nuit, dès que la vieille armoire craquera, on fera la noce aussi vrai que je suis un chinois. Et là-dessus, il hocha la tête et s'endormit. Mais la petite bergère pleurait en regardant son bien-aimé, le ramoneur. Je t'en prie, dit-elle, aide-moi à m'échapper dans le monde, nous ne pouvons plus rester ici. Je veux tout ce que tu veux, dit le petit ramoneur. Sauvons-nous tout de suite, je pense bien que je saurai te nourrir avec mon état. Pourvu que nous descendions heureusement de la console, dit-elle. Je ne serai jamais tranquille tant que nous ne serons pas hors d'ici. Et il la rassura. et il lui montra comment elle devait poser son petit pied sur les rebords sculptés sur le feuillage doré. Il l'aida aussi avec son échelle, et bientôt ils atteignirent le plancher. Mais en se retournant vers la vieille armoire, ils virent que tout y était en révolution. Tous les cerfs sculptés allongeaient la tête, dressaient leurs bois et tournaient le cou. Le grand général commandant en chef Jambe de Bouc fit un saut et cria au vieux chinois « Les voilà qui se sauvent ! Ils se sauvent !» Alors ils eurent peur et se réfugièrent dans le tiroir du marchepied de la fenêtre. Là se trouvaient trois ou quatre jeux de cartes dépareillés et incomplets, puis un petit théâtre qui avait été construit tant bien que mal. On y jouait précisément une comédie, et toutes les dames, qu'elles appartiennent à la famille des carreaux ou des piques, des cœurs ou des trèfles, étaient assises au premier rang et s'éventaient avec leurs tulipes. Et derrière elles se tenaient tous les valets qui avaient à la fois une tête en l'air et l'autre en bas, comme sur les cartes à jouer. Il s'agissait dans la pièce de deux jeunes gens qui s'aimaient mais qui ne pouvaient arriver à se marier. La bergère pleura beaucoup, car elle croyait que c'était sa propre histoire. « Ça me fait trop mal, » dit-elle. « Il faut que je quitte le tiroir. » Mais lorsqu'ils mirent de nouveau le pied sur le plancher et qu'ils jetèrent les yeux sur la console, ils aperçurent le vieux chinois qui s'était réveillé et qui se démenait violemment. « Voilà le vieux chinois qui accourt !» s'écria la petite bergère, et elle tomba sur ses genoux de porcelaine. Tout à fait désolé. J'ai une idée, dit le ramoneur. Nous allons nous cacher au fond de la grande cruche qui est là dans le coin. Nous y coucherons sur des roses et sur des lavandes, et s'il vient, nous lui jetterons de l'eau aux yeux. Non, ce serait inutile, lui répondit-elle. Je sais que le vieux chinois et la cruche ont été fiancés, et il reste toujours un fond d'amitié après de pareilles relations, même longtemps après. Non. Il ne nous reste pas d'autre ressource que de nous échapper dans le monde. « Et en as-tu réellement le courage ?» dit le ramoneur. « As-tu songé comme le monde est grand et que nous ne pourrons plus jamais revenir ici ?»« J'ai pensé à tout, » répliqua-t-elle. Et le ramoneur la regarda fixement et dit ensuite « Le meilleur chemin pour moi est par la cheminée. As-tu réellement le courage de te glisser avec moi dans le poêle et de grimper le long des tuyaux ? C'est par là seulement que nous arriverons dans la cheminée, et là je saurai bien me retourner. Il faudra monter aussi haut que possible, et tout à fait au haut, nous parviendrons à un trou par lequel nous entrerons dans le monde. » Il la conduisit à la porte du poêle. « Dieu ! Qu'il y fait noir ! » s'écria-t-elle. Cependant, elle l'y suivit, et de là dans les tuyaux où il faisait une nuit noire comme la suie. « Nous voilà maintenant dans la cheminée, » dit-il. « Regarde, regarde là-haut la magnifique étoile qui brille. » Il y avait en effet au ciel une étoile qui semblait par son éclat leur montrer le chemin. Il grimpait toujours. C'était une route affreuse, si haute, si haute. Mais il la soulevait, il la soutenait, il lui montrait les meilleurs endroits où mettre ses petits pieds de porcelaine. Ils arrivèrent ainsi jusqu'au rebord de la cheminée où ils s'assirent pour se reposer, tant ils étaient fatigués. Et ils avaient bien de quoi l'être. Le ciel, avec toutes ses étoiles, s'étendait au-dessus d'eux et les toits de la ville s'inclinaient bien au-dessous. Ils promenèrent leurs regards très loin, tout autour d'eux, bien loin dans le monde. La petite bergère ne se l'était jamais figurée si vaste. Elle appuyait sa petite tête sur le ramoneur et pleurait si fort que ses larmes tachèrent sa ceinture. « C'est trop, » dit-elle. « C'est plus que je n'en puis supporter. Le monde est trop immense. Oh, que ne suis-je encore sur la console près de la glace ?» Je ne serai pas heureuse avant d'y être tournée. Je t'ai suivie dans le monde maintenant. Ramène-moi là-bas, si tu m'aimes véritablement. » Et le ramoneur lui parla raison. Il lui rappela le vieux chinois et le grand général commandant en chef Jambe de Bouc. Mais elle sanglotait si fort et elle embrassa si bien son petit ramoneur qu'il ne put faire autrement que de lui céder, quoique ce fût insensé. Ils se mirent à descendre avec beaucoup de peine par la cheminée, se glissèrent dans les tuyaux et arrivèrent au poêle. Ce n'était pas certes un voyage d'agrément, et ils s'arrêtèrent à la porte du poêle sombre pour écouter et apprendre ce qui se passait dans la chambre. Tout y était bien tranquille. Ils mirent la tête dehors pour voir. Hélas, le vieux chinois gisait au milieu du plancher. Il était tombé en bas de la console en voulant les poursuivre et il s'était brisé en 3 morceaux. Tout le dos s'était détaché du reste du corps et la tête avait roulé dans un coin. Le grand général commandant en chef Jambe de Bouc conservait toujours la même position et réfléchissait. « C'est terrible, » dit la petite bergère. « Le vieux grand-père s'est brisé et c'est nous qui en sommes la cause. Oh, je ne survivrai jamais à ce malheur !» Et elle tordait ses petites mains. « On pourra encore le recoller, » dit le ramoneur. « Oui, on pourra le recoller. Allons, ne te désole pas. Si on lui recolle le dos et qu'on lui mette une bonne attache à la nuque, il deviendra aussi solide que s'il était tout neuf. » Il pourra encore nous dire une foule de choses désagréables. « Tu crois ? » dit-elle. Ils remontèrent sur la console où ils avaient été placés de tout temps. « Voilà où nous en sommes arrivés, » dit le ramoneur. « Nous aurions pu nous épargner toute cette peine. Oh, si seulement notre vieux grand-père était recollé, » dit la bergère. « Est-ce que ça coûte bien cher ?» Et le grand-père fut recollé. On lui mit aussi une bonne attache dans le cou et il devint comme neuf. Seulement, il ne pouvait plus hocher la tête. « Vous faites bien le fier depuis que vous avez été cassé, » lui dit le grand général commandant en chef Jambe de Bouc. « Il me semble que vous n'avez aucune raison de vous tenir si roide. Enfin, voulez-vous me donner la main, oui ou non ?» Le ramoneur et la petite bergère jetèrent sur le vieux chinois un regard attendrissant. Ils redoutaient qu'il ne se mît à hocher la tête. Mais il ne le pouvait pas. Il aurait eu honte de raconter qu'il avait une attache dans le cou. Grâce à cette infirmité, les deux jeunes gens de porcelaine restèrent ensemble. Ils bénirent l'attache du grand-père et ils s'aimèrent jusqu'au jour fatal où ils furent eux-mêmes brisé. Le vilain petit canard. Que la campagne était belle. On était au milieu de l'été. Les blés agitaient des épis d'un jaune magnifique, l'avoine était verte, et dans les prairies, le foin s'élevait en monceaux odorants. La cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges, en bavardant de l'égyptien, langue qu'elle avait apprise de madame sa mère. La cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges, en bavardant de l'égyptien, langue qu'elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prairies s'étendaient de grandes forêts coupées de lacs profonds. Oui, vraiment, la campagne était bien belle. Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux domaine entouré de larges fossés et de grandes feuilles de bardane descendaient du mur jusque dans l'eau. Elles étaient si hautes que les petits enfants pouvaient se cacher dessous et qu'au milieu d'elles, on pouvait trouver une solitude aussi sauvage qu'au centre de la forêt. Dans une de ces retraites, une cane avait établi son nid et couvé ses œufs. Il lui tardait bien de voir ses petits éclore. Elle ne recevait guère de visites car les autres aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle. Enfin, les œufs commencèrent à crever les uns après les autres. on entendait pip, pip. C'étaient les petits canards qui vivaient et tendaient leur cou dehors. Rap, rap, dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu'ils pouvaient. Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes et la mer les laissa faire car le vert réjouit les yeux. Que le monde est grand, dirent les petits nouveau-nés à l'endroit même où ils se trouvèrent au sortir de leur œuf. Vous croyez donc que le monde finit là ? Dit la mère. Oh non ! Il s'étend bien plus loin, de l'autre côté du jardin, jusque dans les champs du curé. Mais je n'y suis jamais allée. Êtes-vous tous là ? Continua-t-elle en se levant. Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. Dieu, que cela dure longtemps, j'en ai assez. Et elle se mit à couver, mais d'un air contrarié. Eh bien, comment cela va-t-il ? Dit une vieille canne qui était venue lui rendre visite. Il n'y a plus que celui-là que j'ai toutes les peines du monde à faire crever. Regardez un peu les autres. Ne trouvez-vous pas que ce sont les plus gentils petits canards qu'on ait jamais vus ? Ils ressemblent tous d'une manière étonnante à leur père, mais le coquin ne vient pas même me voir. Montre-moi un peu cet œuf qui ne veut pas crever, dit la vieille. Oh, vous pouvez me croire, c'est un œuf de dinde. Moi aussi j'ai été trompée une fois comme vous, et j'ai eu tout la peine possible avec le petit, car tous ces êtres-là ont affreusement peur de l'eau. Je ne pouvais parvenir à lui faire entrer. J'avais beau le happer et barboter devant lui, rien n'y faisait. Je le regarde encore. Oui, c'est bien certainement un œuf de dinde. Laissez-le là et apprenez plutôt aux autres enfants à nager. Non, puisque j'ai déjà perdu tant de temps, je puis bien rester à couver un jour ou deux de plus, répondit la canne. Comme vous voudrez, répliqua la vieille. Elle s'en alla. Enfin, le gros œuf creva. « Pip, pip !» fit le petit, et il sortit. Comme il était grand et vilain. La canne le regarda et dit « Quel énorme caneton ! Il ne ressemble à aucun de nous. Serait-ce vraiment un dindon ? Ce sera facile à voir, il faut qu'il aille à l'eau, quand je devrais l'y traîner. » Le lendemain, il faisait un temps magnifique. Le soleil rayonnait sur toutes les vertes bardanes. La mère des canards se rendit avec toute sa famille au fossé. Platch ! Et elle sauta dans l'eau. Rap, rap, dit-elle ensuite. Et chacun des petits plongea l'un après l'autre, et l'eau se referma sur les têtes. Mais bientôt, ils reparurent et nagèrent avec rapidité. Les gens balaient toutes seules, et tous se réjouissaient dans l'eau. Même le vilain grand caneton gris. « Ce n'est pas un dindon, » dit-elle. « Comme il se serre habilement de ses jambes et comme il se tient droit. C'est mon enfant aussi, il n'est pas si laid lorsqu'on le regarde de près. Rup, rup. Venez maintenant avec moi. Je vais vous faire faire votre entrée dans le monde et vous présenter dans la cour des canards. Seulement, ne vous éloignez pas de moi. » pour qu'on ne marche pas sur vous, et prenez bien garde aux chats. » Ils entrèrent tous dans la cour des canards. Quel bruit on y faisait ! Deux familles s'y disputaient une tête d'anguille, et à la fin, ce fut le chat qui l'emporta. « Vous voyez comme les choses se passent dans le monde ?» dit la canne en aiguisant son bec, car elle aussi aurait bien voulu avoir la tête d'anguille. « Maintenant, remuez les jambes, » continua-t-elle. « Tenez-vous bien ensemble et saluez le vieux canard là-bas. C'est le plus distingué de tous ceux qui se trouvent ici. Il est de race espagnole, c'est pour cela qu'il est si gros. Et remarquez bien ce ruban rouge autour de sa jambe. C'est quelque chose de magnifique et la plus grande distinction qu'on puisse accorder à un canard. Cela signifie qu'on ne veut pas le perdre et qu'il doit être remarqué par les animaux comme par les hommes. Allons, Tenez-vous bien. Non, ne mettez pas les pieds en dedans. Un caneton bien élevé écarte les pieds avec soin. Regardez comme je les mets en dehors. Inclinez-vous et dites « rap ». Ils obéirent. Et les autres canards qui les entouraient les regardaient et disaient tout haut. « Voyez un peu, en voilà encore d'autres, comme si nous n'étions pas déjà assez. Donc, qu'est-ce que ce canet-là? Nous n'en voulons pas !» Et aussitôt, un grand canard vola de son côté, se jeta sur lui et le mordit au cou. « Laissez-le donc !» dit la mère. « Il n'a fait de mal à personne !» « D'accord, mais il est si grand et si drôle, » dit l'agresseur, « qu'il a besoin d'être battu. »« Vous avez là de beaux enfants, la mère, » dit le vieux canard au ruban rouge. « Ils sont tous gentils, excepté celui-là. Il n'est pas bienvenu. Je voudrais que vous puissiez le refaire. »« C'est impossible, » dit la mère canne. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il a si bon caractère. Et il nage dans la perfection. Oui, j'oserais même dire mieux que tous les autres. Je pense qu'il grandira joliment et qu'avec le temps, il se formera. Il est resté trop longtemps dans l'œuf et c'est pourquoi il n'est pas très bien fait. Tandis qu'elle parlait ainsi, elle le tirait doucement par le cou et lissait son plumage. Du reste, c'est un canard. Et la beauté ne lui importe pas tant. Je crois qu'il deviendra fort et qu'il fera son chemin dans le monde. Enfin, les autres sont gentils. Maintenant, mes enfants, faites comme si vous étiez à la maison et si vous trouvez une tête d'anguille, apportez-la-moi. » Et ils firent comme s'ils étaient à la maison. Mais le pauvre canet, qui était sorti du dernier œuf, fut, pour sa laideur, mordu, poussé et bafoué, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. « Il est trop grand !» disaient-ils tous. Et le coq d'Inde, qui était venu au monde avec des éperons et qui se croyait empereur, se gonfla comme un bâtiment toute voile dehors et marcha droit sur lui en grande fureur et rouge jusqu'aux yeux. Le pauvre canet ne savait pas s'il devait s'arrêter ou marcher. Il eut bien du chagrin d'être si laid et d'être bafoué par tous les canards de la cour. Voilà ce qui se passa dès le premier jour. Et les choses allèrent toujours de pis en pis. Le pauvre canet fut chassé de partout. Ses sœurs même étaient méchantes avec lui et répétaient continuellement « Que ce serait bien fait si le chat t'emportait, vilaine créature !» Et la mère disait « Je voudrais que tu fusses bien loin. » Les canards le mordaient, les poulets le battaient et la bonne qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied. Alors, il se sauva et prit son vol par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent de frayeur. « Et tout cela parce que je suis vilain, » pensa le caneton. Il ferma les yeux et continua son chemin. Il arriva ainsi au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Il s'y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué. Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils aperçurent leurs nouveaux camarades.
« Qu'est-ce que c'est que cela ? » dirent-ils.
Le canet se tourna de tous côtés et salua avec toute la grâce possible.
« Tu peux te flatter d'être « énormément laid !» dirent les canards sauvages. « Mais cela nous est égal, pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. »
Le malheureux. Est-ce qu'il pensait à se marier, lui qui ne demandait que la permission de coucher dans les roseaux et de boire de l'eau du marécage ? Il passa ainsi deux journées. Alors, arrivèrent dans cet endroit deux jarres sauvages. Il n'avait pas encore beaucoup vécu. Aussi était-il très insolent.
« Écoute, camarade, » dirent ces nouveaux venus, « tu es si vilain que nous serions contents de t'avoir avec nous. Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau de passage ? Ici, tout près, dans l'autre marécage, il y a des oies sauvages charmantes, presque toutes demoiselles, et qui savent bien chanter. Qui sait si tu n'y trouverais pas le bonheur, malgré ta laideur affreuse ? Tout à coup, on entendit « pif, paf !» et les deux jarres sauvages tombèrent morts dans les roseaux, et l'eau devint rouge comme du sang. Et des troupes d'oies sauvages s'envolèrent des roseaux, et on entendit encore des coups de fusil. C'était une grande chasse. Les chasseurs s'étaient couchés tout autour du marais. Quelques-uns s'étaient même postés sur des branches d'arbres qui s'avançaient au-dessus des joncs. Une vapeur bleue, semblable à de petits nuages, sortait des arbres sombres et s'étendait sur l'eau. Puis, les chiens arrivèrent au marécage. Platch, platch! Et les joncs et les roseaux se courbaient de tous côtés. Quelle épouvante pour le pauvre caneton! Il plia la tête pour la cacher sous son aile, mais en même temps il aperçut devant lui un grand chien terrible. Sa langue pendait hors de sa gueule et ses yeux farouches étincelaient de cruauté. Le chien tourna la gueule vers le caneton, lui montra ses dents pointues et, platch, platch, il alla plus loin. Sans le toucher. Dieu merci, soupira le canard. Je suis si vilain que le chien lui-même dédaigne de me mordre. Et il resta ainsi, en silence, pendant que le plomb sifflait à travers les joncs et que les coups de fusil se succédaient sans relâche. Vers la fin de la journée seulement, le bruit cessa. Mais le pauvre petit n'osa pas encore se lever. Il attendit quelques heures, regarda autour de lui et se sauva du marais aussi vite qu'il put. Il passa au-dessus des champs et des prairies. Une tempête furieuse l'empêcha d'avancer. Sur le soir, il arriva à une misérable cabane de paysans, si vieille et si ruinée qu'elle ne savait pas de quel côté tomber, ou aussi restait-elle debout. La tempête soufflait si fort autour du caneton qu'il fut obligé de s'arrêter et de s'accrocher à la cabane. Tout allait de mal en pis. Alors, il remarqua qu'une porte avait quitté ses gonds et lui permettait, par une petite ouverture, de pénétrer dans l'intérieur. C'est ce qu'il fit. Là demeurait une vieille femme avec son matou et sa poule. Et le matou, qu'elle appelait son petit-fils, savait arrondir le dos et filer son rouet. Il savait même lancer des étincelles, pourvu qu'on lui frottât convenablement le dos à rebrousse-poil. La poule avait des jambes fort courtes, ce qui lui avait valu le nom de courte jambe. Elle pondait des œufs excellents et la bonne femme l'aimait comme une fille. Le lendemain, on s'aperçut de la présence du caneton étranger. Le matou commença à gronder et la poule à glousser. « Qu'y a-t-il ? » dit la femme en regardant autour d'elle. Mais comme elle avait la vue basse, elle crut que c'était une grosse cane qui s'était égarée. « Voilà une bonne prise !» dit-elle. « J'aurai maintenant des œufs de cane, pourvu que ce ne soit pas un canard, enfin !» « Nous verrons. » Elle attendit pendant 3 semaines, mais les œufs ne vinrent pas. Dans cette maison, le matou était le maître et la poule la maîtresse. Aussi, ils avaient l'habitude de dire « Nous et le monde !» car ils croyaient faire à eux seuls la moitié et même la meilleure moitié du monde. Le caneton se permit de penser que l'on pouvait avoir un autre avis, mais... cela fâcha la poule.
Sais-tu pondre des œufs ?
Demanda-t-elle.
Non. Eh bien, alors tu auras la bonté de te taire.
Et le matou le questionna à son tour.
Sais-tu faire le gros dos ? Sais-tu filer ton rouet et faire jaillir des étincelles ?
Non.
Alors tu n'as pas le droit d'exprimer une opinion. Quand les gens raisonnables causent ensemble.
Et le caneton
se coucha tristement dans un coin. Mais tout à coup, un air vif et la lumière du soleil pénétrèrent dans la chambre. Et cela lui donna une si grande envie de nager dans l'eau qu'il ne put s'empêcher d'en parler à la poule.
« Qu'est-ce donc ? » dit-elle. « Tu n'as rien à faire, voilà qu'il te prend des fantaisies. Pond des œufs ou fais ronron et ses caprices te passeront.
C'est pourtant bien joli de nager sur l'eau, » dit le petit canard. « Quel bonheur de la sentir se refermer sur sa tête et de plonger jusqu'au fond. »
« Ce doit être un grand plaisir, en effet, » répondit la poule. « Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu à Minet, qui est l'être le plus raisonnable que je connaisse, s'il aime nager ou à plonger dans l'eau. Demande même à notre vieille maîtresse. Personne dans le monde n'est plus expérimenté. Crois-tu qu'elle ait envie de nager, de sentir l'eau se refermer sur sa tête ?»«
Vous ne me comprenez pas. »
Nous ne te comprenons pas. Mais qui te comprendrait donc? Te croirais-tu plus instruit que Minet et notre maîtresse?
Je ne veux pas parler de moi.
Ne t'en fais pas à croire, enfant, mais remercie plutôt le Créateur de tout le bien dont il t'a comblé. Tu es arrivé dans une chambre bien chaude, tu as trouvé une société dont tu pourrais profiter et tu te mets à raisonner jusqu'à te rendre insupportable. « Ce n'est pas vraiment un plaisir de vivre avec toi. Crois-moi, je te veux du bien. Je te dis sans doute des choses désagréables, mais c'est à cela que l'on reconnaît ses véritables amis. Suis mes conseils et tâche de pondre des œufs ou de faire ronron. »«
Je crois qu'il me sera plus avantageux de faire mon tour dans le monde, » répondit le canard.
« Comme tu voudras, » dit le poulet.
Et le canard s'en alla nager. Et se plongeait dans l'eau, mais tous les animaux le méprisèrent à cause de sa laideur. L'automne arriva. Les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent les saisit et les fit voltiger. En haut, dans les airs, il faisait bien froid. Des nuages lourds pendaient, chargés de grêle et de neige. Sur la haie, le corbeau croassait. Tant il était gelé. Rien que d'y penser, on grelottait. Le pauvre caneton n'était en vérité pas à son aise. Un soir, que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons. Le canet n'en avait jamais vu de semblables. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avaient le cou long et souple. C'étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier. Ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée, chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut que le vilain petit canard en était étrangement affecté. Il tourna dans l'eau comme une roue, il dressa le cou et le tendit en l'air vers les cygnes voyageurs et poussa un cri si perçant et si singulier qu'il se fit peur à lui-même. Il lui était impossible d'oublier ces oiseaux magnifiques et heureux. Aussitôt qu'il cessa de les apercevoir, il plongea jusqu'au fond, et lorsqu'il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait pas comment s'appelaient ces oiseaux, ni où ils allaient, mais cependant, il les aimait comme il n'avait encore aimé personne. Il n'en était pas jaloux, car comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite? Il aurait été trop heureux si les canards avaient consenti à le supporter, le pauvre être si vilain. Et l'hiver devint bien froid, bien froid. Le caneton nageait toujours à la surface de l'eau pour l'empêcher de se prendre tout à fait. Mais chaque nuit, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu'on entendait la glace craquer. Le canet était obligé d'agiter continuellement les jambes pour que le trou ne se fermât pas autour de lui. Mais enfin, il se sentit épuisé de fatigue. Il ne remuait plus et fut saisi par la glace. Le lendemain matin, un paysan vint sur le bord et vit ce qui se passait. Il s'avança, rompit la glace et emporta le canard chez lui pour le donner à sa femme. Là, il revint à la vie. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais le caneton, persuadé qu'ils allaient lui faire du mal, se jeta de peur au milieu du pot au lait, si bien que le lait rejaillit dans la chambre. La femme frappa ses mains l'une contre l'autre de colère et lui, tout effrayé, se réfugia dans la baratte et de là dans la huche à farine, puis de là prit son vol au dehors. Dieu ! Quel spectacle ! La femme criait, courait après lui et voulait le battre avec les pincettes. Les enfants s'élancèrent sur le tas de fumier pour attraper le caneton. Ils riaient et poussaient des cris. Ce fut un grand bonheur pour lui d'avoir trouvé la porte ouverte et de pouvoir ensuite se glisser entre des branches dans la neige. Il s'y blottit, tout épuisé. Il serait trop triste de raconter toutes ses misères et toutes les souffrances qu'il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux. Il était couché dans le marécage entre les joncs lorsqu'un jour le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Les alouettes chantaient, il faisait un printemps délicieux. Alors, tout à coup, le caneton put se confier à ses ailes qui battait l'air avec plus de vigueur qu'autrefois, assez forte pour le transporter au loin. Et bientôt, il se trouva dans un grand jardin, où les pommiers étaient en pleine floraison, où le sureau répandait son parfum et penchait ses longues branches vertes jusqu'au fossé. Comme tout était beau dans cet endroit, comme tout respirait le printemps. Et des profondeurs du bois sortirent trois cygnes blancs et magnifiques. Ils battaient des ailes et nagèrent sur l'eau. Le canet connaissait ces beaux oiseaux. Il fut saisi d'une tristesse indicible. « Je veux aller les trouver, ces oiseaux royaux. Ils me tueront pour avoir osé, moi, si vilain, m'approcher d'eux, mais cela m'est égal. Mieux vaut être tué par eux que d'être mordu par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour. » et que de souffrir les misères de l'hiver. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées. « Tuez-moi, » dit le pauvre animal, et penchant la tête vers la surface de l'eau, il attendait la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente ? Il vit sa propre image au-dessous de lui. Ce n'était plus un oiseau mal fait, d'un gris noir, vilain et dégoûtant. Il était lui-même un cygne. Il n'y a pas de mal à être né dans une basse-cour lorsqu'on sort d'un œuf de cygne. Maintenant, il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui, le caressaient de leur bec. Des petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l'eau. Et le plus petit d'entre eux s'écria « En voilà un nouveau !» Et les autres enfants poussèrent des cris de joie. « Oui, oui, c'est vrai, il y en a encore un nouveau !» Et ils dansaient sur les bords, puis battaient des mains. Et ils coururent à leur père et à leur mère, et revinrent encore jeter du pain et du gâteau. Et ils dirent tous « Le nouveau est le plus beau, qu'il est jeune, qu'il est superbe !» Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Alors, il se sentit honteux et cacha sa tête sous son aile. Il ne savait comment se tenir, car c'était pour lui trop de bonheur, mais il n'était pas fier. Un bon cœur ne le devient jamais. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout, et voilà qu'il les entendait tous dire qu'il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux. Et le sureau même inclinait ses branches vers lui, et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante. Alors, ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa et il s'écria de tout son cœur « Comment,
Aurais-je pu rêver tant de bonheur pendant que je n'étais qu'un vilain petit canard ?